venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
À venir dans un instant.
Caravane éthiopienne avec Daniel, programmée tous les mercredis à 17h, heure Martinique.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Voilà, donc c'est parti, chers auditeurs. Nous sommes dans le cadre de l'émission Caravane éthiopienne. Je viens donc vous chercher chez vous, comme chaque mercredi à 17h pile. Nous venons chercher chez vous, vous récupérer pour partir dans la merveilleuse caravane éthiopienne. Donc, programmée tous les mercredis à 17h. Le passage est certain. Vous pouvez monter dans la caravane, vous pouvez vous embarquer, chers auditeurs. Nous sommes prêts à partir dans un instant. Nous partirons pour une bonne balade théologique. Et je rappelle qu'à toute fin utile que nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 11. Alors embarquez-vous, chers auditeurs, dans cette merveilleuse caravane éthiopienne. Donc dans un instant, on va partir.
Thank you.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Voilà donc, chers amis auditeurs, comment allez-vous? Nous sommes maintenant dans la caravane éthiopienne, chers auditeurs, et je vous invite à monter, à prendre place, puisque nous allons partir, donc, comme chaque mercredi, pour une merveilleuse balade. Et nous avons ce soir une copilote avec nous, un colistier avec nous. Flavienne, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Ça va bien?
Je vais dire très bien.
Par la grâce de Dieu.
Grâce à Dieu, surtout grâce à lui, oui.
Jamais, c'est la première fois que tu t'embarques dans la caravane, quoi.
Ah, c'est la première fois et heureuse d'être à bord.
Est-ce que tu sais comment ça se passe?
Eh bien, je suppose que oui, cela se fait à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Et toi, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, eh bien, nous éclairera. Voilà.
Amen. Alors, chers auditeurs, installez-vous. Donc, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. J'ai une copilote avec moi. Aujourd'hui, je vous emmène tout de suite. Installez-vous. Mettez votre ceinture de sécurité. Nous partons à toute allure dans cette caravane éthiopienne. Chaque mercredi, c'est comme ça. Et dans une heure, je vous ramènerai chez vous, chers auditeurs. Nous sommes donc au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, Fabienne, que tu vas nous lire entièrement. Du verset 1 jusqu'au verset 19, parce qu'il y a 19 versets. Nous t'écoutons, Fabienne.
Alors, on me donna un roseau semblable à une verge en disant...
Ne cours pas, hein. Prends ton temps, ne cours pas. On recommence.
On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leur ennemi les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que, car il est saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.
Voilà donc, merci Flavienne et bonsoir donc à notre sœur Christiane qui est montée dans la caravane depuis la métropole. Bienvenue en tout cas, bien-aimée du Seigneur dans la caravane éthiopienne. Alors ici Flavienne au chapitre 11 de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 11 dans cette caravane, bien-aimée. Et ce chapitre est considéré dans la Bible comme un chapitre charnière. C'est-à-dire que ça se trouve entre deux événements. Entre la sixième trompette et la septième trompette. Entre la sixième trompette, parce que sept trompettes doivent sonner à la fin des temps. Certaines trompettes ont déjà sonné. D'autres sont en train de retentir. Et il y a la septième trompette qui est assez particulière. Parce qu'au niveau du chapitre 11, il faut comprendre que six trompettes ont déjà sonné. Il y avait comme une mi-temps avant d'entendre la septième. Parce que quand on lit le chapitre 11 et le chapitre 10, ces deux chapitres, c'est une espèce de mi-temps. On va dire ouspel que Dieu accorde à l'humanité avant la septième trompette. Parce qu'on a l'impression que la septième trompette va sonner. Ce sera une phase irréversible. L'humanité va entrer dans une phase irréversible. Et lorsqu'on écoute d'emblée en début ce qui se passe quand la septième trompette va sonner, on comprend que cette trompette n'a pas encore sonné, mais n'est pas loin de sonner, cher auditeur. Alors, ce chapitre-là, Flavienne, se décante, se divise en trois grands segments. Alors, dans tout ce que Dieu fait, il y a un plan. Dans chaque chapitre du livre de l'Apocalypse, il y a un plan. J'aimerais dire d'emblée que ce livre de l'Apocalypse n'est pas un livre théologique, n'est pas un livre de doctrine. C'est un livre de révélation. Parce que le terme Apocalypse veut dire révélation. C'est un livre qu'on ne peut pas comprendre de manière théologique ni de manière pastorale. C'est un livre, il faut être dans la révélation pour comprendre ce livre, cher auditeur. C'est un livre d'images. Il y a beaucoup d'images. C'est un livre aussi où même Jean, qui a reçu ces révélations, n'a pas toujours compris ce qu'il voyait. Par exemple, il a dit qu'il voyait du ciel tomber une grosse montagne comme embrasée par le feu. Donc, quelque chose comme une grosse montagne. Donc, il n'avait pas les mots pour décrire ce qu'il voyait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que plus nous allons vers la fin des temps, mieux nous comprendrons ce livre. Alors, pour bien comprendre ce livre encore, vous devez comprendre que c'est un livre numérique où les chiffres sont multiples. Tous les chiffres ont sens spirituel. Un livre numérique, un livre d'images et un livre de révélation. Si vous avez ces trois fondamentaux, vous pourrez mieux comprendre ce livre. Livre de révélation, livre d'images, livre numérique. Si vous avez ces éléments-là, vous comprendrez très bien ce livre. Alors, chers auditeurs, il est important pour nous, à la fin des temps, d'essayer de comprendre ce livre. Et une erreur à ne pas commettre quand vous lisez ce livre, il ne faut jamais s'enfermer dans une croyance. Il faut toujours laisser les portes ouvertes à d'autres hypothèses, parce qu'on émet des hypothèses. Et par rapport au temps qui passe, on peut soit voir qu'on s'est trompé d'hypothèse, ou bien soit on avait vu juste. Il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas avoir l'air d'être stupide si on se rend compte qu'on s'est trompé par rapport à une interprétation. Parce que dans ce cas-là, dans certaines phases de ce livre, on est obligé d'interpréter, parce que ce n'est pas un livre de doctrine, un livre de révélation. Amen. Est-ce que tout est dit pour mieux comprendre ce livre? Alors, Fabienne, dans ce livre, dans ce chapitre 11, singulièrement, parce que dans la caravane, nous voyons chapitre après chapitre, tu as lu le chapitre 11, il y a trois grands, comme j'ai dit au départ, trois grands segments. Le premier grand segment qu'il y a, c'est que on voit le temple mesuré. Amen. C'est le verset 1 à 2. Le temple est mesuré. Le verset 3 à 14, c'est l'histoire des deux témoins. Amen. Les deux oliviers, deux témoins. Qui sont-ils? Que font-ils? Pourquoi sont-ils là? Pourquoi apparaissent-ils à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont déjà venus? Est-ce qu'ils sont à venir? Ces deux témoins vont être sur la terre. Amen. Et là, le troisième grand segment, du verset 15 au verset 19, c'est la septième trompette qui sonne. Autrement dit, la dernière trompette. Tout le monde a compris? Donc, trois grands segments. On peut remplacer le terme segment par partie. Trois grandes parties de ce livre, chers auditeurs. Première grande partie, c'est le temple qui est mesuré. Deuxième grande partie, on voit l'histoire des deux témoins. Je vais vous en parler. Et troisième grande partie, le verset 15 à 19, c'est la septième trompette qui sonne. Alors, on part maintenant, Fabienne, pour la toute première partie. Le temple mesuré, relis pour nous le verset 1 au verset 2. C'est le temple qui est mesuré. Relis pour nous, on t'écoute.
On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mets le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois.
Mmh. Voilà. Alors, il est évident, Flavienne, qu'on peut se poser des questions. Une voix dit à Jean, n'oublie pas que Jean est un esprit, c'est important. Si tu ne comprends pas que Jean est un esprit, tu ne peux pas comprendre ce livre-là. Alors, Jean est un esprit. On lui dit, lève-toi et mesure le temple. Alors, il faut comprendre ici que le temple ici, ce n'est pas le bâtiment. Amen. Ce n'est pas le bâtiment d'église. Ce n'est pas un temple qu'il voit et qu'on lui dit de mesurer. Et quand on lui dit de mesurer, nous avons la notion de mètre, de centimètre, de mètre, de décamètre. Il ne s'agit pas de longueur, de largeur, mais il s'agit de la qualité des hommes, la qualité de ceux qui adorent. C'est une question de qualité et de propriété. On vient mesurer un terrain qui nous appartient. La notion de mesure ici, en réalité, est une notion où Dieu fait appel à l'appartenance. D'ailleurs, il dit « mesure ceux qui adorent ». Donc, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de mesurer comme on mesure une maison, mais il s'agit ici de la propriété. Dieu revendique des personnes qu'il adore. Dieu revendique que ces personnes-là lui appartiennent. Lève-toi, n'est-ce pas, et mesure le temple de Dieu au verset 11, chapitre 11, verset 1. Donc, je disais, bien aimé, que cette mesure n'est pas une question de dimension physique, comme vous le voyez. D'ailleurs, Jean, bien aimé, ne mesure pas seulement un bâtiment, mais on voit qu'il mesure les adorateurs. Relis pour nous, Fabienne, il mesure des adorateurs.
On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent.
D'accord, on voit qu'il mesure des personnes. Donc, ce n'est pas une question de mesure physique, mais plutôt une revendication d'appartenance. Dieu identifie, n'est-ce pas, ce qui lui appartient. Amen, mes amis. Et lis pour nous dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous allez voir qu'en réalité, le temple, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous-mêmes. Vous savez ça déjà, chers auditeurs. Le temple, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous-mêmes. Donc, Dieu, il a cette habitude, Fabienne, de peser les hommes. Il a pesé le roi Nebuchadnezzar. Amen. Autrement dit, il va mesurer. Il va mesurer les hommes. C'est-à-dire qu'il va essayer de connaître quelle est notre dimension de notre sainteté. Donc ici, comprenez ici, qu'il ne s'agit pas de temples faits de mains d'hommes, mais des êtres humains qui lui appartiennent. La mesure consiste à revendiquer une appartenance à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même?
Amen. Excusez-moi, donc j'envoyais le lien à quelqu'un qui m'a demandé pour écouter l'émission. Excusez-moi de ce petit blanc. Alors, bien aimé, on a dit, Flavienne, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quelque part, l'apôtre Jean n'est pas appelé à mesurer un bâtiment d'église. Il est appelé à revendiquer des adorateurs, des personnes qui appartiennent à Dieu. En demandant à Jean de mesurer les adorateurs, de mesurer le temple, Dieu ne fait pas allusion à un bâtiment, il fait allusion à des personnes. Autrement dit, il veut prendre le pouls de ces personnes-là. Et dans la Bible, hein, quand Dieu a parlé au roi Nebuchadnezzar, Dieu lui a dit, tu as été pesé, compté et divisé. Autrement dit, il n'a pas été pesé sur une balance. Dieu a voulu prendre son poids spirituellement, sa longueur spirituellement, sa largeur, son envergure spirituelle. On parle d'envergure d'une personne. Eh bien, c'est exactement ici, bien-aimé, à la fin des temps, par l'Esprit, Dieu prendra l'envergure des êtres humains qui sont supposés l'adorer. Relis pour nous encore le verset 1 à 2, afin que vous compreniez, chers amis auditeurs, qu'il ne s'agit pas ici de mesurer un temple fait de main d'homme, mais de mesurer la chrétienté. Vas-y.
On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois.
Amen. Donc, on a expliqué, donc, Flavienne, la partie mesurée. On a expliqué que ce n'est pas un temple fait de main d'homme. On a expliqué que Dieu veut revendiquer sa propriété sur ceux qu'il adore, leur envergure spirituelle, leur envergure dans la sainteté, leur envergure dans l'adoration. Maintenant, il dit, laisse le parvis extérieur. Alors, elle a été donnée aux nations pour être foulée aux pieds. C'est-à-dire que le christianisme, ceux qui croient en Dieu, vont connaître à la fin des temps un moment qu'on appelle le temps des nations. C'est-à-dire qu'il y a une période dont le Christ lui-même a parlé, le temps des nations. Quelle est cette époque? Cette époque, c'est l'époque où l'Église sera enlevée et Jérusalem sera foulée aux pieds. Cette partie concerne en fait le peuple d'Israël singulièrement. Toute la chrétienté, évidemment, sera concernée, mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée. Et les Juifs vont se convertir pendant la période qu'on appelle la Grande Tribulation. Cette Grande Tribulation qui est censée durer 42 mois, 1260 jours, ou si vous préférez, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc, on va voir que, pour qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que je dis, que Flavienne, les nations vont fouler aux pieds le parvis et pendant 42 mois. Le parvis dans le tabernacle, c'était le lieu où tout le monde pouvait aller. Quel que soit notre état, sans consécration, on pouvait aller là. Donc, ça veut dire que quelque part, la ville sainte Jérusalem sera foulée pendant 42 mois. Et ce terme, 42 mois, 3 ans et demi, un temps, des temps, la moitié d'un temps, donc c'est une formulation qui veut dire la même chose, qui décrit la période où l'Église sera enlevée, il n'y aura plus de lumière spirituelle sur la terre, et le monde sera livré entre les mains de l'Antéchrist. Cette période s'appelle dans la Bible la Grande Tribulation. Alors, parce qu'il y aura des convertis pendant cette période-là, mais ce seront des martyrs. La Bible dit que Jean a vu des martyrs avec des robes blanches, et on leur a posé la question, d'où venez-vous, d'où viennent-ils? Et la réponse a été donnée à Jean, ils viennent de la Grande Tribulation. Donc Israël va se convertir à Christ dans des temps fâcheux. Je ne sais pas si vous savez ça, l'Israël actuellement ne supporte pas les chrétiens. Si vous allez en Israël, quand les juifs orthodoxes passent devant une église chrétienne, ils crachent. Et récemment, il y a une religieuse qui a été lapidé par un juif. Il faut comprendre une chose. Les vrais juifs en Israël ne supportent pas les chrétiens. Amen. Pour eux, nous sommes des renégats. Je vois beaucoup de gens qui vont en pèlerinage en Israël. Mais je ne sais pas s'ils savent ça. Mais les juifs, quand ils passent devant un temple chrétien, ils crachent à terre. C'est-à-dire que c'est du mépris total. Donc, parce qu'ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur. Amen. Ils attendent le Messie encore. Ils n'ont pas reconnu Christ comme Messie. Mais pendant la Grande Tribulation, ils vont reconnaître Jésus comme le Messie. Et c'est là qu'ils se convertiront. Et c'est là qu'apparaîtra, comme on le verra tout à l'heure, les deux oliviers, les deux témoins. Et c'est eux qui seront chargés de prêcher la parole de Dieu pendant cette période de la Grande Tribulation. Alors, Fabien, il faut qu'on comprenne bien les choses ici. Alors, le temple est mesuré. Amen. Mais il y a une partie du temple qui a été laissée, je ne dirais pas à l'abandon, mais sans couverture spirituelle par Dieu. Cela veut dire, bien aimé, qu'il y a une partie sainte du temple, c'est-à-dire que l'église, en fait, sera enlevée. Ça, c'est la partie sainte de l'église, sera enlevée. La partie sainte du corps sera enlevée. Mais là, le parvis, là où tout le monde pouvait aller, sera laissé. Et d'une manière symbolique, ce parvis-là, c'est Israël qui va rester là et qui va subir la foudre de la bête qui monte de la mer et de la terre, mais qui va en même temps être au bénéfice du ministère des deux témoins. Fabienne, on se comprend?
Oui, on se comprend.
D'accord. Il est dit au verset, chapitre 11, verset 2, relis pour nous s'il te plaît.
Alors, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois.
Amen. Donc, notez, essayez de situer bien cette période. Cette période se situe bien, comprenez bien, lorsque l'église sera enlevée. Amen. 42 mois, c'est 3 ans et demi, c'est 1260 jours de la Bible, ou c'est un temps d'étant la moitié d'un temps. Donc, notez que rien ne se fait si ça n'a pas été projeté, programmé par Dieu. L'ennemi fait des choses, l'ennemi pense faire des choses, mais en fait, il ne fait que suivre le plan de Dieu. Les choses sont déjà décidées par Dieu. Satan fait des choses et on peut penser qu'il est tout puissant. On peut penser qu'il fait ça. Il ne fait pas ce qu'il veut. Même en crucifiant le Christ, en fait, il accomplissait la prophétie. Parfois, quand Satan te persécute, en fait, il est en train d'accomplir le plan de Dieu en te poussant vers ta destinée. Il y a des persécutions qui ne sont pas là pour nous tuer, mais c'est comme une locomotive pour nous emmener vers notre destinée. Amen. Il y a des choses, il y a des canards que tu ne pourras pas atteindre si derrière il n'y a pas le diable qui te pousse. Et parfois, on voit ça de mauvais œil, mais évidemment, pour qu'Israël se convertisse, Dieu va permettre que Satan, par le biais de la bête qui monte de la mer, eh bien, persécute les Juifs. Et Dieu va permettre ça parce que c'est son peuple. Il aime ce peuple-là. Ils vont se convertir et ils seront des martyrs, en fait. Alors, amen. Jérusalem sera foulée aux pieds, amen, par les nations. Et le Christ l'avait déjà proclamé dans Luc, chapitre 21 et le verset 24. Donc, ce parvis qui est foulé aux pieds, eh bien, c'est exactement Jérusalem qui sera foulé aux pieds. Amen. Comprenez bien ces choses. Et c'est écrit noir sur blanc dans Luc, chapitre 21. Et le verset 24, Fabienne, nous t'écoutons.
Alors, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs pendant toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
Voilà, cette période est très importante. Cette période qu'on appelle le temps des nations, c'est une période où Dieu livre son peuple, les Juifs, entre les mains des nations. Regarde en ce moment ce qui se passe, parce qu'il faut comprendre la prophétie. Regarde en ce moment ce qui se passe. Israël était très conforté dans sa géostratégie dans le monde, parce qu'il avait un allié puissant, les Américains. Mais les Américains sont en train d'abandonner Israël. Et ils n'ont plus aucun allié dans le monde. Même les Occidentaux, et l'Espagne en tête, eh bien, l'Espagne, l'Italie ont déjà tourné le dos à Israël, y compris la France. Déjà, bien-aimés, cette haine des Juifs, eh bien, recommence. Parce qu'en octobre, ils ont été attaqués par le Hezbollah libanais, bien-aimés. Eh bien, ils n'ont fait qu'un coup pour coup, mais le monde s'est levé contre eux. Et même les Américains, qui sont pro-israéliens, en principe, eh bien, se lèvent contre ce peuple. Donc, très bientôt, ils n'auront plus d'alliés. Et c'est une prophétie qui se réalise. Ça s'appelle le temps des nations. Le temps où les nations vont fouler aux pieds la ville de Jérusalem. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, vous regardez les informations, vous avez l'impression que c'est la Bible qu'on vous raconte chaque jour sur BFM TV ou sur France 24. Tellement les choses sont limpides et claires. Quand j'écoute maintenant M. Donald Trump et qui méprise Monsieur le Premier ministre Israël et M. Netanyahu, bien-aimé, je me dis, Seigneur mon Dieu, nous sommes en train de voir la prophétie s'accomplir sous nos yeux. Israël, c'est un peuple marginalisé. Ils vont se retrouver seuls. C'est là que la Bible dit que les nations vont fouler Jérusalem aux pieds. Ça ne veut pas dire qu'ils vont détruire cette ville. Fouler aux pieds, c'est mépriser quelqu'un. Quand on foule quelqu'un aux pieds, c'est qu'on le méprise. Mais dans Israël maintenant, équipe de football, équipe de cyclistes, partout où ils vont, ils sont hués. Ils sont méprisés. Parce que c'est comme ça. Amen, bien-aimé. Et on voit que la prophétie se réalise parce que le Christ dit encore dans Luc chapitre, relis pour nous s'il te plaît.
Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
Amen. Donc, cette histoire de grande tribulation, c'est exactement ce dont le Christ parle ici. Mais même la période est arrêtée par Dieu. Amen. Le diable ne pourra pas aller au-delà de la, au-delà de, du temps qui lui est accordé, du timing que Dieu lui accorde. Et le timing que Dieu lui accorde pour agir, pour piétiner la ville sainte, pour piétiner, parce que Dieu compare ça au parvis en fait, pour piétiner cette dimension-là, c'est 42 mois. Alors Fabienne, cette époque de 42 mois revient dans le chapitre 11, verset 2. Également est citée dans le chapitre 11, verset 3, 1260 jours. Également cité dans chapitre 12, verset 6, 1260 jours. Également dans chapitre 12, verset 14, sous la forme un temps, des temps, la moitié d'un temps. Également dans chapitre 13 et le verset 5, 42 mois. Daniel aussi en parle. Daniel 7, verset 25, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc, Daniel 12, verset 7 aussi en parle. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, on voit que c'est déjà écrit. Ça va se faire. Il y aura un temps où les nations vont fouler aux pieds Israël. C'est-à-dire que ce sera le mépris, le dédain, le rejet. On a parlé de l'Holocauste, mais ça ne sera rien par rapport à ce qui va arriver, chers auditeurs, très bientôt. Amen. Donc, ça, c'est la première partie du chapitre 11. Je rappelle que le chapitre 11 est segmenté en trois parties. Il y a trois segments. La première partie que nous avons vue à l'instant, Flavienne, c'est la partie où le temple est mesuré. Je crois avoir expliqué ça correctement par la grâce de Dieu.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Voilà donc, nous sommes à la deuxième partie de ce chapitre 11, puisque nous voyons chapitre par chapitre, chers auditeurs. Alors, nous sommes à la deuxième partie, deuxième segment, Famen, et c'est les deux témoins. Là, nous voyons les deux témoins qui apparaissent pendant que le parvis est foulé aux pieds. Alors, notez bien, chers auditeurs, notez bien, Flavienne, notre bien cher ami auditeur qui est dans la caravane avec moi, que ces deux témoins, il faut comprendre le timing au moment où ils apparaissent. Apparaissent au moment où l'église est enlevée. Apparaissent au moment où les chrétiens ne sont plus là. L'église est enlevée pour fêter les noces de l'agneau. Amen. Donc il n'y a sur terre que des inconvertis et Israël. Amen. Donc il y aura des convertis pendant cette période. Ils seront des martyrs. Et là, bien aimé, les deux témoins, il n'y aura plus de ministère d'évangélisme, puisque l'église ne sera plus là. Les deux témoins auront à charge de convertir les gens. Ils apparaissent, Flavienne, dans le chapitre 11, versets 3 à 14. Continue, Wally, s'il te plaît, entièrement.
Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser.
Notez bien.
Revêtus de sacs.
Ils ont le pouvoir de
prophétiser.
Merci.
Revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de la même manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. De même, d'entre les peuples, les tribus, les langues... Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Tu peux t'arrêter là. Alors voilà, bien-aimé, qu'apparaît donc deux personnages, deux témoins, on les appelle aussi les deux oliviers. Amen. Alors, qui sont ces deux personnes? Alors, comme je disais au départ, dans le livre de l'Apocalypse, n'oublions pas que Jean est un esprit, il voit ses deux témoins. Alors, il y a plusieurs courants de pensée sur l'identification de ces deux témoins. On a cherché à savoir qui ils sont. Alors, il y a deux hypothèses qui ont été émises. Alors, il s'agit d'hypothèses qui semble être très sensée, très responsable. Du moins, la première, à mon avis, elle est très responsable. Alors, pour identifier ces deux témoins, alors, on dit, on pense que c'est Élie et Enoch. Alors, pourquoi beaucoup de théologiens pensent que c'est Élie et Enoch? Parce que Élie et Enoch ont une particularité identique. C'est-à-dire que Élie et Enoch n'ont pas connu la mort physique. Et l'adage veut que Dieu ramène ces deux hommes-là pour qu'ils puissent passer par la mort physique comme tout homme. Élie n'est pas mort physiquement. Il y a un char de feu qu'il a pris et qu'il a amené dans le ciel. Où est-il? Voilà. Enoch n'est pas mort non plus. La Bible dit qu'Enoch a été enlevé, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Amen. Moïse a été enterré. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais, bien-aimé, pourquoi je crois que, effectivement, ça pourrait être ces deux personnes-là? Parce qu'effectivement, selon Hébreu, la Bible dit dans Hébreu, Fabienne, Hébreu 9, verset 7, il est réservé, dit pour nous, Hébreu 9, verset 7, il est réservé aux hommes de mourir. Il faut mourir. La conséquence du péché, c'est la mort. Il faut mourir. Amen. De mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Or, Élie et Enoch n'ont pas connu la mort. Lis pour nous, Hébreux 9, verset 27.
Alors, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Amen. Donc, les hommes doivent passer par la mort. C'est le salaire du péché. Et Élie et Enoch étaient des hommes pécheurs comme vous et moi. Ce n'étaient pas des saints. Ce n'étaient pas des miraculés. Amen, bien-aimé. Conception. Amen. Donc, il faut que ces hommes-là passent par la mort. Et théologiquement, c'est une hypothèse qui est tenable. Ça, c'est la première hypothèse pour identifier ces deux hommes. C'est Élie et Enoch. La deuxième hypothèse... Bon, c'est pas que je n'aime pas tellement la deuxième hypothèse, mais je préfère la première pour le fait qu'il y a cette similitude entre Élie et Enoch. La deuxième hypothèse, on dit que c'est Élie et Moïse. Parce que, en fait, ce que font les deux témoins, c'est exactement ce qu'a fait Élie et Moïse sur terre. Voyez le ministère de ces deux, Olivier, de ces deux témoins. C'est exactement ce qu'a fait Moïse et Élie. Alors, la première hypothèse, c'est par rapport à, au fait que Élie et Enoch n'étaient pas morts physiquement. Ils doivent revenir pour mourir physiquement. Mais la deuxième hypothèse qu'il s'agit, où il s'agit d'identifier Moïse comme la, le deuxième témoin, on dit ça parce qu'en fait, quand on regarde le ministère de ces deux témoins, ça rappelle le ministère de Moïse. Changer l'eau en sang, c'est Moïse qui a fait ça. Amen. Donc, les deux sont plausibles. Mais ce que je veux dire par là, faut pas s'inquiéter, faut pas en faire une doctrine avec ça, sinon on a tout faux. La personne des deux témoins, c'est pas ce qui est important de les identifier personnellement. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font, pas ce qu'ils sont, pas qui ils sont. Amen. Ce qui est important, c'est pas leur identité, je dirais civile. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font. Amen. Et si Dieu n'a pas dit leur nom, il y a deux témoins, c'est parce que c'est pas important. C'est nous, par curiosité théologique, on essaie de comprendre qui ils sont. Mais ce n'est pas bien grave si on se trompe sur leur identité civile. Amen. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'ils font et pourquoi apparaissent-ils à ce moment-là. Parce que, je leur ai dit, il faut comprendre à ce moment-là, le parvis du temple, Jérusalem, a été livré aux nations. Et Dieu aime ce peuple-là. Il veut donner une chance à ce peuple-là d'être converti, et tout Israël se convertira sous le ministère de ces deux témoins-là. Amen. Que font-ils, Fabienne? Que font-ils? Amen. Alors, leur ministère, c'est quoi? Les deux témoins exercent leur ministère pendant combien de temps? Pendant 1260 jours. Amen. Tu as trouvé?
C'est en Apocalypse 11?
Oui, toujours 11. D'accord. Les deux témoins exercent le ministère pendant 1260 jours. Amen. Oh mon Dieu. Et au verset 3.
D'accord. Ok. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours.
Et rappelle-toi que le temple est foulé aux pieds. Quand on lit le verset 2, le parvis du temple est foulé aux pieds pendant combien de temps?
42 mois.
42 mois, ça fait combien de jours? 1260 jours. Amen. Donc c'est là qu'on voit la similitude. En fait, leur ministère s'exerce pendant toute la période où le temple, où le parvis est foulé aux pieds. C'est eux qui seront là, n'est-ce pas, pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Ils vont exercer leur ministère pendant 42 mois.
Deux mois, oui.
Amen. Que vont-ils faire? Amen.
Ils vont...
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.
Alors voilà, donc de retour, nous sommes en train de voir maintenant ce que va faire donc ce témoin, ces deux témoins. Que vont-ils en fait faire? que vont-ils en fait faire? Ils vont faire, Fabienne, trois choses. Amen. Ils vont d'une part prophétiser. Deuxièmement, ils vont fermer le ciel. Ça nous rappelle Élie. Mm-hmm. Et troisièmement, ils vont changer l'eau en sang. Ça nous rappelle Moïse. Amen. Bien-aimés. Alors, relis-nous ce qu'ils vont faire. Pardon, ce qu'ils vont faire.
Alors, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs.
Donc, ils vont prophétiser.
Oui.
Et ils sont revêtus comment?
De sacs.
De sacs. Et de sacs.
Pendant 1260 jours.
Donc, je crois, bien-aimé, que on ne voit pas les prophètes habillés comme ça de nos jours. C'est très important. Pourquoi sont-ils revêtus de sacs? Parce que lorsque, au temps d'Israël, les gens jeûnaient, entraient en jeûne d'humiliation, de repentance, ils prenaient le sac et la cendre.
Oui.
C'était une manière de s'humilier devant Dieu.
Mm-hmm.
Donc, ils seront à la fête, en fait, des prédicateurs, des prophètes, mais aussi des intercesseurs qui vont s'identifier au peuple et qui vont prier pour le peuple. Amen. Je crois, bien-aimé, que quelque part, ces hommes-là vont appeler Israël à la repentance, vont vouloir aider ce peuple. Et Israël va se convertir. Mais on va voir que, voilà, tout à l'heure, que ces deux témoins seront tués. La bête va les tuer, pas Israël, parce qu'Israël a crucifié le Christ. Mais ils ne commettront pas cette erreur cette fois-ci de crucifier les envoyés de Dieu. Amen. Alors, on relit Fabienne, ce qu'ils vont faire, ils vont prophétiser.
Alors, ils vont prophétiser, ils seront revêtus de sacs pendant 1260 jours.
Continue.
Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Mmh.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de la même manière.
Amen. Donc, on ne pourra pas les toucher pendant leur ministère. Rappelle-toi, Flavienne, au moment l'apôtre Dieu a dit à l'apôtre Paul, prêche, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, et personne ne mettra la main sur toi. Dieu a dit ça à Paul. Donc, tant que votre tâche n'est pas terminée, on ne peut pas vous tuer. Amen. Quand Dieu vous envoie en mission, personne ne peut vous toucher tant que votre tâche n'est pas terminée. Moun paramo avant les. Amen. Surtout des chrétiens. Donc, ils ont une mission. On va essayer de les arrêter, mais personne ne pourra les arrêter. Ils auront une mission où, comme tu as lu, ils vont prophétiser, ils vont fermer le ciel, ils vont changer l'eau en sang. Ça nous rappelle au ministère d'Élie qui a fermé le ciel et Moïse devant Pharaon qui a changé l'eau en sang. C'est pour ça que certains théologiens disent que, effectivement, c'est Élie et Moïse. Amen. Donc, on continue, Fabienne?
Oui, alors, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie.
Mm-hmm.
Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront.
Mm-hmm.
Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera.
Amen. Cette bête-là qui monte de la quoi? De l'abîme. C'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est l'Antéchrist. Amen. Dans l'Apocalypse, on voit sa provenance de trois manières. L'abîme, la mer et la terre. Mais cela veut dire la même chose, en fait. C'est trois visions différentes sous trois angles différents. Mais en fait, sa provenance, en fait, c'est l'abîme. On peut, Jean l'a vu un moment sortir de la mer. Un moment, il l'a vu sortir de la terre. C'est la même bête, en fait. C'est sa partie politique et sa partie ecclésiastique. Parce que lorsqu'il sort de la terre, il se présente comme l'ecclésia, comme quelqu'un d'ecclésiastique. Lorsqu'il sort de la mer, c'est un homme politique. Lorsqu'il sort de l'abîme, eh bien, il montre son aspect diabolique. Amen. Alors, je reprends. Cette bête-là, on la voit sous la forme de trois. Elle provient de trois dimensions différentes. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la parure qui change, mais c'est la même provenance. Alors ici, on le voit qui monte de l'abîme. C'est-à-dire qu'il nous montre sa provenance satanique et diabolique, l'abîme. Au moment, on le voit au chapitre 13, il monte de la mer. La mer symbolise les peuples. Autrement dit, il va être adulé par le peuple. Autrement dit, les hommes préparent le contour, l'environnement nécessaire pour qu'il puisse apparaître. Puisque la mer symbolise les peuples, les nations. Et on le voit sortir aussi de la terre. C'est encore une partie de la bête qui sort de la terre. La terre est symbole des choses ordonnées. Et cette bête qui sort de la terre, elle fait des prodiges, des miracles. Autrement dit, c'est la partie spirituelle qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon. C'est la partie spirituelle de la bête. Mais c'est la même bête, d'une provenance satanique. Et c'est elle qui va tuer les deux témoins. Amen. Lis la suite, Flavienne.
Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient...
Attends, mais tu es allé trop vite. Il faut lire à partir du verset 10. Et à partir du verset 9.
D'accord, je reviens. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
On ne les a pas enterrés pour les humilier, n'est-ce pas? Continue.
Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
Amen. Je vais m'arrêter là une seconde. Je voulais dire un message aux chrétiens. Les gens du monde ne vous aiment pas. Il faut comprendre une chose qui est simple. Les gens du monde ne vous aiment pas. Alors ne mettez pas ça dans votre tête de plaire aux gens. Les gens du monde ne vous aiment pas. Quand on est dans le monde, on n'aime pas les chrétiens. C'est inné. Ils ont tué les deux témoins et on va s'envoyer des présents. Ils voient même un jour férié. Amen. Parce qu'ils vont être contents. Parce que les deux témoins sont morts. Il a dit que, à cause de leur prédication, les habitants de la terre avaient l'impression que ces deux témoins les tourmentaient. La prédication de la parole de Dieu, en fait, gêne. Dire la vérité de Christ gêne. Les gens font semblant de vous regarder, mais les gens ne vous aiment pas. Il faut comprendre ça, les gens ne vous aiment pas. Point barre, c'est comme ça. C'est pas autrement. Amen. Continue, Fabienne.
Alors,
on est au verset 12.
12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la deuxième partie de la ville tomba. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
Amen. On voit bien là qu'il y a deux dimensions. Qui est lorsque les deux témoins sont ressuscités, sont enlevés dans le ciel, Dieu va frapper la terre. 7000 hommes vont mourir dans la ville. Il faut savoir qu'à Jérusalem, il n'y a pas que des juifs. Amen. Il y a des païens à Jérusalem. C'est pas parce que c'est Jérusalem, il n'y a que des chrétiens là-bas, il y a des païens là. 7000, c'est ça bien? C'est bien ça?
Oui,
pas
c'est bien,
bien
ça.
7000 vont périr. Mais parmi les gens qui sont là, on regarde bien la fin. Et les autres donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ça veut dire bien qu'il y aura des conversions. Ça veut dire bien que le travail qu'ils vont faire pendant les 42 mois portera du fruit. Nous faisons un travail ici à la radio FMS Soir, moi j'en fais de ma vie, et j'ai appris par le Seigneur qu'aucun travail n'est vain pour Dieu. Parfois on sème avec larmes, mais il faut qu'on soit patient, ça porte du fruit. Parfois on peut se décourager parce que on aime regarder les feux de paille en fait. Autour de nous il y a beaucoup de feux de paille. Les feux de paille, c'est quoi? Dans la forme spirituelle, ce sont des choses qui prennent de l'ampleur vite et qui disparaissent du jour au lendemain. Mais Dieu n'est pas du genre feu de paille. Amen. Si tu m'écoutes en cet instant et que tu es en train de diriger un ministère et ça prend beaucoup de temps, tu galères, etc., continue à travailler pour ton Dieu. Amen, aimé. Tôt ou tard, ça portera du fruit. Pendant 3 ans et demi, les deux témoins ont prêché, ont prophétisés, mais ils étaient haïs par les hommes. Parce que les hommes avaient l'impression que ces prophéties les tourmentaient. Cependant, quand ils sont morts et ressuscités, eh bien, il y a eu des gens qui se sont convertis. Puisqu'il est dit ici que les autres donnèrent gloire à Dieu. Alors, je dis béni soit l'Éternel. Quand il y a des persécutions, amen, quand l'évangile est prêché, il y a des gens qui n'aiment pas, mais il y a des gens qui sont touchés. Gloire à Dieu. Amen. Et nous sommes au verset 14, Flavienne.
Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt.
Amen. Le second malheur est passé. Voici, vient quoi?
Voici, le troisième malheur vient bientôt.
Amen. Alors, je disais à Dieu, mais Seigneur, mon Dieu, mais quand on voit ce qui vient après, autrement dit, au verset 15, c'est la septième trompette qui sonne. Et quand je lis le texte, je ne vois pas de malheur. Et j'en dis, voici, le troisième malheur arrive. Et c'est là que j'ai compris pas mal de choses en mienne. Lorsque la septième trompette sonne, en fait, les royaumes de la terre sont remis à Christ. Et j'en parle de malheur. C'est très anecdotique, c'est très singulier ça, anecdotique ça. Ça veut dire que pour les gens de la terre, ça va être un malheur, mais pas pour l'Église. Dieu va reprendre, si tu veux, à la septième trompette, Dieu va reprendre les règnes du monde, va reprendre la clé du monde, va reprendre les royaumes, va reprendre le contrôle des choses et va remettre à son Fils. Et ça, pour les hommes, ça va être un malheur, un problème. Amen. Relis le verset 14 et tu peux lire le verset 15 aussi.
Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. »
C'est pas le royaume de Dieu, hein?
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles.
Donc, quelque part, Dieu va reprendre le contrôle de l'humanité. Dieu va reprendre les clés du monde. Parce que l'homme a conduit le monde à un fiasco. L'homme a conduit le monde à un échec. Dieu va reprendre donc le contrôle du monde. Et il va remettre les choses. La Bible parle du prince de ce monde. Amen. Dieu va reprendre le contrôle des choses et il va le remettre entre les mains de son fils. Et j'appelle ça le malheur, le troisième malheur. Pour moi, c'est pas un malheur. Mais pour les gens du monde, ça va être un malheur. Pour nous, chrétiens, nous sommes contents. Parce que Dieu a pris le contrôle. On aime ce chant qui dit, il est au contrôle, il est au contrôle. Je veux le louer car il est au contrôle. Eh bien, ça va être le cas. Ça va être le cas. Dieu va reprendre le contrôle du monde. Mais ça va être le troisième malheur. Ça va être un malheur pour les gens, mais une joie pour nos chrétiens. Amen. Verset 16, Fabienne.
Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu.
Continue, verset 17.
En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne.
Amen. En fait, ça lui appartient. Et les 24 vieillards, qui sont des êtres célestes, vont donner gloire à Dieu. Amen. Vont reconnaître que Dieu a fait ce qui est juste et bon. Il a repris contrôle de ce que lui appartient en réalité. Et j'ai vu je ne sais pas en quelle année, il y avait une grosse grève en Martinique, et j'ai vu des banderoles sur lesquelles était écrit « Martinique, c'est à nous ». Ça m'a fait beaucoup rire, parce que vous savez que nous ne sommes pas martiniquais d'origine. Vous savez que lorsque les gens disent « Martinique, c'est à nous », nous sommes des Africains qu'on a amenés à Martinique. On n'est pas martiniquais d'origine. Alors, si Martinique, c'est à quelqu'un, c'est pas à nous, certainement. Mais, en fait, tout appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et lorsque la septième trompette va sonner, Dieu ne fera que reprendre ce qui lui appartient de droit. Amen. Il a confié à l'homme le soin de gérer la terre. Mais l'homme a conduit l'humanité à la catastrophe, à la déchéance. Et le Seigneur, à la septième trompette, va reprendre les clés de l'humanité. Non seulement dans les mains de Satan, parce que Satan est le prince de ce monde, mais aussi dans les mains des hommes. Et là, dans le ciel, il y aura de l'adoration, parce que Dieu a repris ce qui lui appartient. Verset 18, Fabienne.
Les nations se sont irritées, et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
Amen. Voilà, il est dit que les nations sont irritées. Ils ne sont pas contents. Ils ont perdu le contrôle. Et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. Et de quoi encore?
De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom.
Amen. Parce que nous sommes quasiment au terminus ici. Amen. Nous sommes quasiment au terminus ici. Les choses se font déjà. Des jugements tombent déjà. Les récompenses aussi tombent déjà. Parce qu'il n'y a pas que jugement. Il y a aussi récompense. Amen, mes aimés. Les grands et les petits sont récompensés. Amen. Lis au verset 19.
Et le temple de Dieu dans le ciel ouvert, le ciel fut ouvert, pardon, et l'arche de l'alliance, et non, je reprends. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple.
Amen. Il eut des éclairs,
des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle.
Amen. Parce que l'arche de l'alliance apparaît. Tu sais, jusqu'à ce jour, on cherche l'arche de l'alliance. Tu sais, les hommes l'ont cherché partout, cette arche de l'alliance. Amen. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et on dit qu'il est sous le Vatican, on dit qu'il est caché sous le Vatican, on dit un tas de choses. Mais là, il va apparaître. Il va apparaître comme par, on ne peut pas dire magie, parce que nous ne sommes pas dans la magie, comme par miracle, il va apparaître. Autrement dit, les choses seront scellées. Parce que à la septième trompette, on atteint un stade de non-retour. On ne peut pas retourner en arrière une fois que la septième trompette est annoncée. Ce qu'il y a de problème, ce que je voudrais dire aux chrétiens de nos jours, n'attendez pas, les hommes qui nous écoutent, n'attendez pas demain pour vous convertir. Parce que se convertir dans cette période-là, dans la période où les deux témoins vont exhorter, ils vont prophétiser, c'est une période de persécution, une période de martyr. Vaut mieux se convertir maintenant. Amen. Pendant la période de la grâce, pendant cette période où l'évangile peut être prêché librement. Parce que après, ça va être trop tard, chers auditeurs.
Chaque mercredi à 17h, Daniel vous embarque dans la caravane éthiopienne. Découvrez les mystères du livre de l'Apocalypse avec des explications simples, claires, édifiantes et puissantes.
Alors préparez-vous, les places sont limitées dans la caravane. Caravane éthiopienne, c'est tous les mercredis à 17h sur Radio FM Espoir. Vous avez une question sur un verset biblique? Alors appelez-nous au 05 96 52 64 17.
Vous pouvez nous écouter sur www.fmespoir.fr, également sur l'application de Radio FM Espoir et dans le nord de la Martinique sur les 97.3 MHz.